Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, 13h ici à Paris et à Amsterdam.
RFI midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Florent Guignard.
Bonjour Anne Cantenaire et bonjour à toutes et à tous à la une. L'émotion et la condamnation après des incidents hier à Amsterdam en marge d'un match de foot. Des supporters israéliens attaqués, agressés. 5 d'entre eux sont à l'hôpital. La police a arrêté une soixantaine de personnes. Le président israélien a dénoncé un pogrom antisémite. Le chef de la diplomatie israélienne est attendu dans les prochaines heures aux Pays-Bas. La surprise du chef aux États-Unis, du futur chef de la Maison-Blanche, Donald Trump nomme une femme comme chef de cabinet à la Maison-Blanche, Susie Wiles. Elle avait déjà participé il y a fort longtemps à la campagne de Ronald Reagan. Les Européens face à la guerre économique que leur a promise Donald Trump. Les 27 pays de l'Union sont réunis en sommet à Budapest en Hongrie et se penchent sur le rapport Draghi sur la compétitivité européenne. Également dans ce journal, on parlera du retour du pétrole du Kurdistan irakien. On entendra le Premier ministre Gabriel Attal se défendre face au dérapage budgétaire en France. Et puis je vous promets une surprise à la fin de ce journal.
L'indignation en Israël après ce que le président appelle un pogrom antisémite. Réaction du président israélien après des incidents d'hier soir à Amsterdam à l'issue d'un match de foot aux Pays-Bas.
Des supporters israéliens pris à partie, agressés dans les rues d'Amsterdam après le match Ajax-Maccabi Haïfa. C'est un match de la Ligue Europa. Face à l'émotion, le chef de la diplomatie israélienne est attendu sur place alors que le gouvernement israélien a envoyé des avions pour rapatrier les supporters, prier en attendant de rester dans leur chambre d'hôtel. On retrouve Pierre Benazé, notre correspondant dans la région. Pierre, il vient d'avoir une conférence de presse à Amsterdam où la mairie, la police et le parquet ont fourni des précisions sur les violences qui ont en fait commencé dès mercredi.
Oui, des incidents déjà mercredi, des supporters du Maccabi qui ont brûlé un drapeau palestinien ce soir-là au centre d'Amsterdam. C'est un incident isolé, mais ça fait partie des incidents que la police avait pu déceler, alors que selon la mairesse d'Amsterdam, Fleur Halsema, aucun indice tangible n'avait été décelé par les forces de sécurité avant les événements d'hier. On a vu dès 13h des supporters du Maccabi se rassembler au centre d'Amsterdam hier jeudi. Ils ont été ensuite rejoints par des émeutiers pro-palestiniens, décrits comme des jeunes des quartiers par la mairesse d'Amsterdam. Un drapeau palestinien a été arraché d'une façade et puis une manifestation qui se déroulait près du stade Johan Cruyff au sud-est d'Amsterdam a été réprimée. 20 personnes ont été arrêtées. Il n'y aura plus de manifestation à Amsterdam après les événements de cette nuit où des supporters du Maccabi ont été poursuivis dans les rues. 5 blessés ont été hospitalisés, 30 autres blessés légers, 62 personnes arrêtées et puis des mesures de sécurité supplémentaires mises en place à partir d'aujourd'hui à Amsterdam avec fouilles préventives et puis interdiction de manifestations à partir d'aujourd'hui.
Pierre Benazé en direct de Bruxelles.
Et on reviendra avec notre invité dans une dizaine de minutes sur cette affaire qui suscite déjà de très nombreuses réactions, Florent.
La maire d'Amsterdam a parlé d'une explosion d'antisémitisme. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se dit indignée. Elle dénonce des attaques ignobles. En France, un match de foot France-Israël est prévu la semaine prochaine, jeudi prochain. Mais pas question de le délocaliser. Ce serait abdiquer, a dit tout à l'heure le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau.
Ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est extrêmement grave. Pour ce qui concerne le match du 14 novembre prochain, nous avons étudié les deux possibilités, Parc des Princes ou Stade de France. Il se fera au Stade de France, parce que la préfecture de police m'a confirmé qu'elle était en mesure d'assurer la sécurité à l'intérieur, mais aussi et surtout, on le voit bien avec Amsterdam, à l'extérieur, pour une raison symbolique. J'y tiens aussi, parce qu'on ne doit pas renoncer, on ne doit pas reculer. On ne doit rien lâcher. Voilà. On est en France, dans la République française. C'est un match de foot. Et je voudrais simplement redire à tous ceux qui sont des passionnés de sport, nous qui qui avons vécu un moment fantastique cet été, où le sport nous a tous rassemblés, nous ferons en sorte que ce match soit un très beau match, bien réussi, et qu'il honore précisément les valeurs, ces grandes et belles valeurs du sport.
Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, au micro de Victorien Villaume. Dernière réaction, celle du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, qui se dit très perturbé.
Le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies qui publie par ailleurs aujourd'hui un chiffre accablant pour l'armée israélienne.
Entre novembre 2023 et avril 2024, 70% des morts dans la bande de Gaza sont des femmes et des enfants. Au Liban, l'agence de presse libanaise dit que l'armée israélienne a fait exploser ce matin des maisons dans 3 villages du sud Liban, là où Israël mène son offensive terrestre contre le Hezbollah.
Une première nomination dans la future administration Trump.
Et c'est une femme, et oui, la première femme, chef de cabinet, le poste le plus important à la Maison-Blanche. Voilà, première femme, chef de cabinet, à défaut d'avoir eu la première femme présidente. Elle s'appelle Suzy Wiles. Elle était au cœur de la campagne présidentielle de Donald Trump. Vincent Souriau, c'est elle qui est parvenue autant que se peut à imposer de la discipline aux candidats républicains.
Oui, mais vous ne la verrez pas dans les médias, même lorsque Donald Trump l'a remerciée dans son discours au soir de l'élection. Elle a refusé de prendre le micro, toujours discrète malgré ses 67 ans, très longue expérience politique côté républicain. Elle vient de Floride, elle y a mené des dizaines de campagnes. Elle a rejoint l'équipe Trump pour la présidentielle 2016, présidentielle 2020, d'abord au niveau local, toujours en Floride, jusqu'à cette troisième candidature où elle change de dimension. Elle devient, sans en avoir le titre officiel, directrice de campagne. On lui doit d'avoir mis de l'ordre autour de Donald Trump. Beaucoup moins de courtisans, de parasites ont eu accès à lui pendant la course à la Maison-Blanche. Et ça, c'est son obsession. On arrête les distractions pour accepter ce poste de chef de cabinet. Elle aurait même, selon CNN, posé une condition, qu'on en finisse avec le défilé des copains dans le bureau ovale. En revanche, pour ce qui est de la politique pure, pas de limite. Elle est là pour faire appliquer sans restriction les mesures de Donald Trump, y compris les plus extrêmes sur le climat ou sur l'immigration.
Vincent Souriau du service international de RFI.
L'élection de Donald Trump qui rebat les cartes en Europe.
Sur la sécurité, sur l'économie, les Européens en sont bien conscients. Les 27 dirigeants de l'Union européenne sont réunis en ce moment au sommet à Budapest en Hongrie, où ils se penchent notamment sur le rapport Draghi, Mario Draghi, l'ancien Premier ministre italien, ancien président de la Banque centrale européenne. C'est un très gros rapport, 400 pages, pour éviter que la vieille Europe ne décroche définitivement derrière les États-Unis et la Chine. On écoute Mario Draghi à son arrivée ce matin au sommet.
Les recommandations de ce rapport étaient déjà urgentes compte tenu de la situation économique dans laquelle nous sommes. Elles le sont devenues encore plus depuis les élections américaines. Il ne fait aucun doute que la présidence de Trump marquera une grande différence dans les relations entre les États-Unis et l'Europe. Ce ne sera pas que négatif, mais nous devons bien sûr en tenir compte. L'administration Trump va certainement encore pousser le secteur de la technologie, de la high-tech. C'est un secteur dans lequel l'Europe est très en retard, alors qu'il tire la productivité. De grands changements sont à venir et l'Europe ne peut plus se permettre de repousser ses décisions.
Mario Draghi, ce matin à Budapest.
Fumée blanche pour l'or noir du Kurdistan.
Le Kurdistan irakien va pouvoir de nouveau vendre son pétrole. Le gouvernement autonome d'Erbil et le gouvernement central irakien à Bagdad ont enfin trouvé un accord pour mettre un terme à une crise qui durait depuis près de 2 ans. Correspondance à Erbil de Lucas Lazo.
20 mois sans que la moindre goutte de pétrole ne circule le long du pipeline qui relie le Kurdistan irakien au port méditerranéen de Ceyhan en Turquie. Depuis mars 2023 et un jugement de la Chambre de commerce de Paris, le pipeline est coupé net. Selon les juges, l'exportation du pétrole kurde vers la Turquie enfreint un accord qui arroge à Bagdad et à l'État central irakien le monopole de ses exportations de brut. Coup dur pour la souveraineté du Kurdistan qui perd de facto la mainmise sur les revenus des hydrocarbures. Depuis, Bagdad et Erbil civils sont engagés dans un bras de fer en passe de se résoudre. Au cœur des tensions, l'indemnisation des coûts de production et de transport du pétrole. Selon l'accord de ce mercredi, le Kurdistan concède l'intégralité de sa production à l'agence irakienne du pétrole qui s'acquittera, elle, des coûts d'extraction. En échange, le Kurdistan s'assure des revenus réguliers, mais rigoureusement contrôlés par Bagdad. Cet accord est en partie précipité par les tensions régionales et la crainte de voir le Golfe Persique, l'unique voie de sortie du pétrole irakien, être obstruée. Lucas Lazo, Erbil, RFI.
La longue dérive d'un bateau poubelle.
Rempli de plus de 2000 tonnes de déchets toxiques issus de l'industrie, il avait quitté l'Albanie au mois de juillet et sillonné les océans de la planète dans l'espoir d'être accueilli, d'abord à Singapour, ensuite en Turquie ou encore au Portugal. Eh bien, finalement, le bateau et ses 102 conteneurs toxiques a regagné son port d'origine ce matin en Albanie.
Un geste de la Chine à quelques jours de l'ouverture de la COP29, le sommet mondial sur le changement climatique.
Pékin adopte une nouvelle loi sur l'énergie pour promouvoir la neutralité carbone, alors qu'aujourd'hui la Chine est le plus grand pays émetteur du principal gaz à effet de serre responsable de la crise climatique. Pékin prévoit d'atteindre la neutralité carbone en 2060.
Et avant cette COP, la France, elle, confirme une baisse de ses financements pour le climat.
Oui, une baisse de 5% sur un an pour ces crédits qui passent pour la plupart par l'Agence française de développement. Mais la France reste quand même l'un des pays les plus engagés financièrement dans la lutte contre le changement climatique avec plus de 7 milliards d'euros l'an passé.
Un autre chiffre en France, celui des vendanges.
Et c'est un très mauvais chiffre. Les récoltes sont en forte baisse, la récolte des raisins pour faire du vin en baisse de 23% et cela à cause d'une très mauvaise météo sur tous les vignobles français.
On reste en France avec la suite des auditions aujourd'hui au Sénat sur les dérapages des finances publiques.
L'audition de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal avec cette question. Pourquoi la France a-t-elle atteint un déficit du PIB de 6,1% du PIB contre 4,4% initialement prévu? Et pourquoi donc Gabriel Attal avait refusé au printemps dernier une loi de finances rectificative? On était juste avant les élections européennes. Raphaël Delvolvé.
Pourquoi, lorsque Bercy sonnait l'alerte, le budget rectificatif et donc un débat parlementaire a-t-il été refusé au ministre de l'économie? Gabriel Attal a préféré procéder par décret ou reporter certaines économies à l'année suivante. Il s'explique.
Ça laissait du temps parlementaire supplémentaire pour examiner des textes, projet de loi sur le logement, le projet de loi sur la fin de vie.
En face, les sénateurs doutent. Un débat au Parlement sur un grave dérapage des finances publiques n'était pas dans l'intérêt du camp présidentiel juste avant les élections européennes. Gabriel Attal rejette cet argument.
Si la boussole, c'était les élections européennes, on n'aurait pas annulé 10 milliards d'euros de crédit en février. On n'aurait pas annoncé une réforme de l'assurance chômage en avril et en mai.
Au fil de la discussion, le nom du président Macron émerge. N'est-ce pas lui, après tout, qui a forcé la décision? Gabriel Attal reconnaît l'implication du chef de l'État, mais l'assure, les arbitrages sont les siens.
Évidemment qu'on échange avec le président de la République, mais je ne peux pas dire que c'est lui qui a pris des arbitrages, ça serait un peu facile de ma part de faire ça.
Façon également de faire vivre un bilan lors de son court passage à Matignon.
Ce que j'espère, c'est que vous reconnaîtrez, ou que ceux qui nous regardent reconnaîtront, qu'on a fait des choses bien, voilà, on a fait ce qu'on a pu. J'ai pas d'exemple de Premier ministre qui ont annulé 10 milliards d'euros de crédit en cours d'année après sa nomination, ça m'a pas rendu populaire.
Comme Bruno Le Maire hier, il ne manquera d'ailleurs pas non plus de critiquer les choix budgétaires de son successeur, Michel Barnier.
On reste en France avec un son que les Parisiens n'avaient pas entendu depuis 5 ans.
Les cloches de Notre-Dame, elles ont sonné ce matin, toutes ensemble, pour la première fois depuis 5 ans. Et l'incendie qui avait menacé la cathédrale de Paris, les cloches de Notre-Dame avant l'inauguration officielle, après 5 ans de travaux, ce sera au début du mois de décembre.
Et avant de terminer ce journal, on va parler d'alimentation. Mal manger a des conséquences pour la santé.
Mais pas seulement, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon non plus pour les finances publiques. C'est un rapport de l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, qui le dit. Justine Fontaine, la FAO a fait ses calculs, la sous-nutrition et la malnutrition coûtent près de 10 000 milliards de dollars par an à l'économie mondiale.
Oui, et ça représente près de 10% du PIB de la planète. Voilà pour le chiffre global, un montant gigantesque et qui est probablement sous-estimé, souligne l'agence dans un rapport publié ce vendredi. Dans le détail, la facture la plus lourde, on la doit à la malbouffe, le fait de trop manger de sel, de viande rouge, de produits industriels transformés ou encore de ne pas assez manger de fruits, de légumes et de céréales complètes. Une mauvaise alimentation qui provoque de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires et coûte particulièrement cher aux pays développés. La sous-nutrition ensuite a elle aussi des conséquences économiques. Car ne pas assez manger ne permet pas de rester en bonne santé, d'étudier et de travailler normalement. Et si on regarde à l'échelle de l'économie de chaque pays, la malbouffe et le manque de nourriture pénalisent proportionnellement beaucoup plus les pays pauvres ou confrontés à des conflits. Cela a coûté au Soudan du Sud l'équivalent de 18% de son PIB en 2020 et à l'Ukraine ou à la République centrafricaine 15% de leur PIB.
Merci Justine Fontaine, 13h15 à Paris, RFI Midi continue. Avec vous, Anne Cantener.
Merci Florent Guignard. On va parler de sport tout de suite. Avec Christophe Deremzian, bonjour.
Bonjour Anne.
Et du football pour commencer. Une soirée frustrante hier pour les clubs français en Ligue Europa. Deux matchs nuls à l'occasion de la quatrième journée de la phase de la Ligue.
Oui, des points gâchés au coup de gong pour l'un. Une défaite évitée de justesse pour l'autre. Lyon contraint de se contenter d'un nul de partout sur la pelouse des Allemands d'Offenheim à cause d'un but égalisateur à la 95e minute alors qu'Alexandre Lacazette pensait avoir donné un avantage décisif à l'OL deux minutes auparavant. Les Lyonnais sont 9e du classement. Même score pour Nice à domicile face à Twente. Mais là, les Azurés réduit à 10 à 20 minutes de la fin, ont commencé par prendre l'eau avant de refaire surface grâce à deux buts de Jérémy Boga et de Mohamed Ali Chou. Ouf de soulagement au coup de sifflet final, mais bilan comptable maigrelet à mi-parcours, deux petits points et une 31e place peu enviable. La faute à qui ? À quoi ? Peut-être au manque de sérieux qui plombe les esprits des joueurs face à des adversaires peu réputés. Explication avancée en tout cas par Dante, le capitaine brésilien de l'OGC.
Faut prendre pas ces matchs-là à la légère. Il faut déjà se préparer dans la tête que ce sont des matchs très très difficiles. Malgré qu'ils peut-être sont pas très connus, ils savent jouer le football. C'est à nous d'apprendre ça aussi, peut-être d'entrer avec beaucoup de vigilance, beaucoup de concentration, beaucoup d'agressivité pour pas pouvoir se faire surprendre comme nous avons été.
Dante, le capitaine niçois, parmi les autres résultats de la soirée, la victoire de la Lazio Rome sur Porto 2-1. Les Italiens gardent la tête du classement devant l'Ajax Amsterdam, vainqueur du Maccabi Tel Aviv 5-0 dans le contexte des violences d'après-match évoquées. De son côté, Manchester United a dominé le PAOK Salonique 2-0.
Le football, c'est aussi l'ouverture de la 11e journée de Ligue 1 en France. Marseille reçoit Auxerre.
L'OM qui doit rehausser un petit peu sa cote de confiance auprès des supporters après deux matchs sans victoire au stade Vélodrome. Pas sûr que les Auxerrois soient le meilleur adversaire pour ça. Alors certes, ils sont 10e au classement, mais ils voyagent bien en ce moment et leur carton contre Rennes 4-0 dimanche dernier ne peut que motiver le défenseur ivoirien des Bourguignons, Clément Akpa.
Quand on joue contre ce genre d'équipe, c'est voilà, en face il y a des noms, il y a de grands joueurs. Et donc c'est un surplus de motivation. Après, je pense que au vu de ce qu'on a montré sur ces derniers matchs, notamment ce que nous on recherchait, c'est vrai qu'à domicile on a su montrer de très belles choses, mais on avait besoin aussi de cette référence à l'extérieur. Et je pense qu'à Lyon, même si on ne prend pas les trois points, on a su montrer de très belles choses. Donc c'est toutes ces choses-là qui font qu'on est dans une bonne dynamique. Et oui, on peut aller à Marseille en prétendant repartir de là-bas au moins avec un point.
Clément Akpa avant Marseille-Auxerre, coup d'envoi 19h45 TU.
Enfin la demi-finale du Masters féminin de tennis à Riyad.
Oui, la Tchèque Barbora Krejčíková qui a éliminé hier la tenante du titre Iga Świątek en phase de groupe va affronter en demi-finale tout à l'heure la chinoise Tsinwen Zheng. L'autre ticket pour la finale se jouera ensuite entre la Biélorusse Arina Sabalenka et l'Américaine Coco Gauff.
Christophe Deremzian, vous avez mentionné tout à l'heure les violences qui ont suivi le match entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv. Et on en reparle tout de suite.
RFI Midi, le monde à la mi-journée.
Les Nations Unies très perturbées, la présidente de la Commission européenne indignée et la France qui promet qu'il n'y aura aucune faiblesse, aucune lâcheté face à l'antisémitisme. Les réactions sont très nombreuses après les violences commises hier soir à Amsterdam. Après un match donc entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv, nous sommes en ligne pour en parler avec un expert en géopolitique du sport. Bonjour Kevin Vessière.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur du FC Geopolitics. Il y a beaucoup d'images sur X, des vidéos qui montrent des supporters israéliens menacés, frappés, contraints de prononcer les mots « Free Palestine ». Mais Il est encore un peu difficile de savoir ce qui s'est passé exactement, d'avoir le fil de la soirée. Est-ce que vous avez quelques détails sur ce qui s'est passé hier soir à Amsterdam ?
Comme vous le rappelez, effectivement, d'après les informations disponibles, la situation est encore difficile à décrire, même si effectivement il a été rapporté des attaques à caractère antisémite contre les supporters israéliens du Maccabi Tel Aviv. Après aussi, les autres informations qui ont pu être apportées, notamment en amont du match, c'est que le climat autour de ce match était relativement assez véhément, puisque les supporters du Maccabi Tel Aviv ont aussi proféré des chants anti-palestiniens en amont du match et aussi arraché des drapeaux palestiniens, ce qui en tout cas ne justifie en rien les accès de violence qu'on a pu avoir après le match, mais ça témoigne en tout cas du climat exacerbé qu'il y avait autour de cette rencontre en amont, pendant et après le match.
Ouais, ces gestes agressifs des supporters israéliens, voire provoquants, c'est aussi ce que nous a dit une photographe néerlandaise qui était sur place hier et à laquelle RFI a pu parler. Est-ce que ce club du Maccabi Tel Aviv est connu pour être un club avec des supporters particulièrement violents ?
Pour le cas du Maccabi Tel Aviv, non, c'était pas forcément le club le plus violent d'Israël. C'est plus les supporters du Beitar qui sont plus du Beitar Jérusalem qui sont en tout cas plus politisés et plus nationalistes. Après, compte tenu en tout cas du contexte de la guerre et la recrudescence du conflit israélo-palestinien, en tout cas les tensions ont pu être exacerbées par ces supporters qui ont en tout cas trouvé l'occasion de ce match pour en tout cas mettre en avant leurs différentes revendications et parfois de manière violente.
Et est-ce qu'il y a des difficultés spécifiques pour les clubs israéliens aux Pays-Bas particulièrement ?
Alors particulièrement aux Pays-Bas, non. Après, pour ce qui est en tout cas des déplacements des clubs israéliens, notamment dans ces phases de Coupe d'Europe, c'est toujours des matchs qui sont classés à haut risque, notamment du point de vue sécuritaire, pour notamment protéger les supporters israéliens qui peuvent être vus comme des cibles compte tenu de la guerre Israël-Hamas-Hezbollah. Et par la suite, ça a pu en tout cas poser des difficultés pour notamment certains matchs qui ne voulaient pas accueillir, en tout cas recevoir à la fois, que ce soit peut-être la sélection israélienne. C'était notamment le cas pour un match Belgique-Israël qui devait avoir lieu en septembre dernier à Bruxelles, et où finalement les autorités locales ont préféré délocaliser le match, et donc il n'a pas pu avoir lieu à Bruxelles du fait du contexte sécuritaire et notamment de comment en tout cas sécuriser l'accès pour l'ensemble des supporters, en particulier des supporters israéliens.
Alors là, le niveau de tension était vraiment particulièrement élevé et de violence, donc on en a parlé, on l'a vu aussi sur les vidéos qui circulent sur X. La réaction a été immédiate. Le chef de la diplomatie israélienne va se rendre à Amsterdam. 3 avions vont être dépêchés. Le premier doit arriver dans un peu plus d'une demi-heure maintenant pour rapatrier les supporters. C'est la première fois qu'un pays met en place un tel dispositif.
À ma connaissance, oui. En tout cas, il est effectivement extrêmement rare qu'un pays envoie aussi rapidement des avions pour récupérer des supporters, surtout des ressortissants après un match de football. Après, la décision de Netanyahou et d'Israël s'inscrit en tout cas dans un cadre politique clair et avec envoyer un message clair. Montrer en tout cas que le gouvernement israélien en tout cas protège chaque citoyen israélien, que ce soit à la fois Israël et aussi en dehors. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu, en tout cas de la part de Netanyahou et de son administration, une réaction aussi rapide sur ce point.
Une réaction très rapide qu'on imagine pouvoir être aussi politique. On voit que le conflit israélo-palestinien, la guerre en cours à Gaza et au Liban s'étend dans plusieurs domaines. Est-ce que c'est le cas aussi du foot ? D'une manière générale,
cas,
je veux dire, au-delà des événements
du...
qui se sont produits hier.
Oui, bien sûr. Après, en tout cas, au niveau du football, les positions qui ont été prises, notamment par l'UEFA, en tout cas pour la sélection israélienne depuis en tout cas les attentats du 7 octobre, c'était que les matchs d'Israël, de la sélection nationale, ne pouvaient pas avoir lieu sur le territoire israélien, compte tenu en tout cas du contexte sécuritaire. Donc les matchs ont été délocalisés à Budapest en Hongrie. Après, la question ne s'était pas encore posée pour les clubs, notamment les clubs qui se déplacent pour ces matchs de Coupe d'Europe. Mais c'est vrai qu'avec ce précédent d'Amsterdam, la question va en tout cas se poser pour chaque déplacement de ces clubs israéliens, notamment sur l'aspect sécuritaire, et de savoir si finalement ces lieux ne doivent pas avoir, ces matchs ne doivent pas être finalement disputés soit à huis clos, soit sur un terrain neutre, comme c'est le cas en tout cas pour certains matchs de la sélection israélienne.
Vous faites la différence entre les clubs et l'équipe d'Israël. Cette équipe de foot d'Israël, elle jouera la semaine prochaine en France contre les Bleus. Est-ce qu'il y a là un risque de violence selon vous ?
En tout cas, le contexte sécuritaire sera à haut risque autour de ce match-là, comme c'est le cas en tout cas pour chaque match que dispute la sélection nationale d'Israël dans le cadre effectivement de cette compétition qui est la Ligue des Nations. Et le seul cas pour l'instant où un match qui était prévu en tout cas à l'extérieur pour cette équipe d'Israël, c'était le cas que je vous évoquais du match de la Belgique, qui finalement avait été délocalisé carrément en Hongrie à Budapest. Là, pour l'instant, le match en tout cas est prévu toujours au Stade de France à Saint-Denis. Et c'est vrai qu'en tout cas, compte tenu des événements qui ont eu lieu à Amsterdam, le contexte sécuritaire sera renforcé. Et donc, ce sera un match effectivement à analyser en amont, pendant et aussi après le match, pour en tout cas éviter le plus possible qu'il y ait des débordements et qu'il y ait des attaques en tout cas contre les supporters.
Qu'est-ce que ça change de délocaliser dans un autre pays en termes de sécurité ?
Déjà, en tout cas, pour ce qui est en tout cas de la délocalisation au niveau des matchs qui ont pu avoir lieu en Hongrie, le contexte est moins exacerbé, puisque finalement il n'y a pas une équipe qui joue à domicile ou à l'extérieur, mais c'est sur terrain neutre, que les supporters locaux et aussi sont en tout cas beaucoup plus soit contrôlés, soit en tout cas la sécurité autour du match est beaucoup plus renforcée, et donc ça limite finalement en tout cas les débordements à l'issue de ce match, puisque il y a moins de supporters au niveau du public, et après derrière la sécurité peut aussi être renforcé, puisque ce match a lieu sur un terrain neutre, donc ça désacralise finalement, on va dire, ce match avec une équipe israélienne ou la sélection nationale israélienne.
Merci beaucoup Kevin Vessière d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur du FC Geopolitics. Merci.
Merci.
Cette guerre au Proche-Orient se poursuit à Gaza sans aucune issue en vue, aucune perspective notamment de libération des otages qui sont retenus depuis plus d'un an maintenant par le Hamas. Presque tous sont israéliens, mais il y a aussi 6 Thaïlandais qui étaient employés dans les kibbutz visés lors de l'attaque terroriste du 7 octobre 2023. Et notre correspondant en Thaïlande, Valentin Sébron, a rencontré les parents de l'un de ces otages venus d'une zone pauvre et rurale du nord-est du pays.
Dans la demeure familiale des Si-Houn, la télé tourne en boucle en attendant la bonne nouvelle, que le Hamas libère Ouattara, 32 ans, pour qu'il puisse enfin rentrer chez lui à Bandkoutiang, un village paisible de la province d'Udon Thani. Pour sa mère Wiweo, l'incertitude est insoutenable. Les dernières nouvelles du Proche-Orient qu'elle suit chaque jour ne la rassurent guère.
Il y a de plus en plus de violence, on ne sait pas quand la guerre prendra fin. J'ai peur pour mon fils, ça fait plus d'un an qu'il a été kidnappé et que nous sommes sans nouvelles. Qu'est-ce qu'il mange, comment il dort, je n'en peux plus d'attendre.
Depuis l'enlèvement de Ouattara le 7 octobre 2023, la famille est bouleversée. Dans le salon, son père est scotché devant le téléviseur à suivre les infos en continu. Le vieil homme a souvent des absences, nous dit sa femme Wiweo.
On pleure presque tous les jours, on dort mal. Mon mari perd la tête depuis qu'il n'a plus de nouvelles de son fils. On l'a emmené 3 fois à l'hôpital et il a même fait un AVC.
Mais malgré ce quotidien difficile, cette chrétienne raconte comment la foi l'aide à garder espoir.
Sans religion, je serais morte. Dieu m'a aidée à ne pas craquer. Chaque dimanche, je vais à l'église et je prie pour que notre fils revienne ici sain et sauf.
Surtout, ce qui l'aide à tenir, c'est sa petite fille de 9 ans. Elle s'appelle Noudi, c'est la fille de Ouattara. La gamine vient de perdre sa mère, emportée il y a 2 mois par une maladie, mais elle est forte, répète Wiweo, en regardant avec douceur la fillette onate tressée.
Elle sait que son père est encore en vie. Elle prie aussi pour que le Hamas relâche son père et qu'il puisse à nouveau l'amener à l'école et partir en voyage avec elle.
Ouattara avait rejoint Israël en 2020 justement pour offrir à sa fille un avenir plus radieux. Là-bas, il gagnait 2 fois plus que dans son village natal et envoyait de l'argent à sa famille endettée. Avant le 7 octobre 2023, 30 000 Thaïlandais travaillaient comme lui dans des fermes kibbutz israéliens. La photo manque d'opportunités et au salaire miséreux, selon Wong Wuyan, une élue locale qui vit dans le village d'à côté.
Certains n'ont pas d'autre choix que de partir à l'étranger. Les familles thaïlandaises, avec un travailleur migrant, ont une vie meilleure. Ils ont assez d'argent pour s'acheter une maison, un terrain ou une voiture.
Grâce en partie au salaire que Ouattara touchait en Israël, les Si-Houn ont d'ailleurs récemment pu faire construire une maison, celle dans laquelle ils vivent actuellement et que l'otage retenu à Gaza n'a jamais vu terminer. Tous ici espèrent que Ouattara pourra voir un jour la nouvelle bâtisse où une photo de lui aux côtés de toute la famille est accrochée au mur. Valentin Sébron, Udon Thani, RFI.
Un reportage à retrouver comme toutes nos informations sur internet rfi.fr ou à réécouter sur l'appli RFI Pure Radio. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 30 secondes maintenant pour Afrique Midi. À tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent, Igor Strauss.
Direction l'Albanie. Ce petit pays du sud-est de l'Europe abrite l'un des derniers fleuves sauvages d'Europe. Mais ce refuge de biodiversité est désormais menacé par l'explosion du tourisme de masse et la construction d'infrastructures dans des zones naturelles fragiles. Un reportage de Louis Seyé.
C'est pas du vent, Igor Strauss.
Du mercredi au vendredi, à partir de 14h10 TU.
RFI.